Et il est midi 27 et à présent on reçoit Pierre en direct en studio. Salut Pierre.
Salut tout le monde.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
On te retrouve comme tous les mardis pour un nouvel épisode de Partager l'architecture, écriture croisée. Et aujourd'hui tu es allé à la rencontre de Laurent Gouillon-Beauchamp, si je ne me trompe pas.
Laurent Gouillon-Beauchamp, ouais.
Et donc qui est ce monsieur ?
Eh bien, Laurent Gouillon-Beauchamp, je suis allé à sa rencontre parce que c'est tout simplement un enseignant et c'est le sujet de notre émission qui est donc l'écriture dans l'enseignement de l'architecture, à opposer ou pas, ou en termes de... Enfin, plutôt à compléter avec le dessin. Et c'est un enseignant de VTP. Donc VTP, c'est la deuxième matière un petit peu dans les études d'architecture. C'est ville, territoire et paysage. C'est un enseignement qui vient un peu en complément de l'équivalent de l'atelier de projet où c'est là où on conçoit un bâtiment. Eh bien, ce Laurent Gouillon-Beauchamp, il se trouve qu'il est enseignant contractuel depuis 2006, prouvant bien la situation aussi dans les universités et dans les écoles d'architecture. Mais il n'est pas que enseignant.
Et il n'est pas qu'enseignant parce qu'il est aussi architecte, comme tu l'as évoqué, et surtout, il a sa propre agence.
Exactement. Donc, je suis venu l'interroger en tant qu'enseignant aussi, mais aussi en tant que praticien de l'architecture, puisqu'il a effectivement son agence à Bordeaux. Et sa particularité, c'est qu'il ne traite pas que les questions purement architecturales, quand j'entends par purement architectural, c'est-à-dire que sur un bâtiment, mais il va aussi traiter des questions plus urbaines et paysagère. Et à Bordeaux, on a plein d'exemples de ces travaux. Et dans ces aménagements urbains, il y a notamment le cours Victor Hugo, que l'on connaît autour de cette table, normalement. Donc, c'est un des cours principaux de Bordeaux. Et il a été fait, c'était dans les années 2000, et avec notamment deux artistes. Et c'est là sa démarche. Donc, il était avec un autre cabinet. Il n'était pas l'architecte principal, mais il était l'un des architectes locaux, disons. Et dedans, il y a notamment Danielle Just, qui est une plasticienne et qui est venue en fait travailler, je pense que vous voyez un petit peu, au niveau de la grosse cloche. Il y a un espace public juste devant, donc la grosse cloche avant, juste à côté, il y a une chapelle qui y est toujours. Et il y a un espace public où il y a des formes de lignes au sol qui se concentrent vers la porte de la grosse cloche. Est-ce que vous voyez un petit peu de quoi je parle ?
Moi, je vois à peu près.
Ouais. Moi, je vois très vite fait aussi, ouais. C'est entre la chapelle et la grosse cloche, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Et là, il y a tout un espace. Et en fait, on a des lignes qui viennent. Et ça, c'est une forme un peu presque d'art contemporain, on va dire, puisque ce sont des lignes. On n'aurait pas du tout ça dans l'aménagement de l'espace public il y a 100 ans. Et je trouve, au final, que c'est quand même globalement un bon intermédiaire entre l'art contemporain inséré dans l'espace public avec un élément très patrimonial. Et ça va de pair aussi avec tout le luminaire. Donc il y a tout un travail, vous regarderez quand vous marcherez dans le cours Victor Hugo, vous lèverez la tête, et bien il y a des formes de luminaire, tu vois un petit peu de quoi je parle, les luminaires juste au-dessus, et c'est des formes un peu assez particulières, de même les bancs et tout, qui a été fait par Yann Kersalé, et lui pareil, c'est un artiste mais plutôt du côté luminaire, pour l'éclairage public et l'éclairage de bâtiments. Il a fait de nombreux bâtiments, l'Opéra de Lyon, la Tour Agbar à Barcelone, le musée du Quai Branly à Paris. Donc il y a de très nombreux grands monuments qui sont éclairés par lui, alors qu'on ne le sait pas. C'est un peu une personne de l'ombre au final, alors qu'il éclaire. C'est quand même très drôle.
Et après le cours Victor Hugo, est-ce que Laurent Gouillon-Beauchamp a fait d'autres aménagements de rues ou de bâtiments dans Bordeaux ?
Et exactement, il a continué, il en a fait un que l'on connaît très bien, c'est tout simplement le pôle d'échange métropolitain des Quinconces. Donc quand vous êtes aux Quinconces, sous les platanes, il y a tout un bâtiment, je pense que vous voyez duquel je parle, où il y a une forme un peu de protection solaire qui sont des mailles, assez artistiques aussi, donc il a quand même une certaine, il invite bien, il convoque plusieurs champs pour faire son architecture ou faire son urbanisme comme le cours Victor Hugo. Et c'est de là que je voulais vous parler un petit peu de questions plus métropolitaines, parce que l'architecture, ça ne s'arrête pas au simple bâtiment. Donc ce pôle d'échange des Quinconces, il permet l'accueil du tram, notamment, et après de toutes les mobilités. Et le tram, donc ça a été fait dans le début des années 2000, et notamment, on ne sait pas tout, disons, dans la métropole bordelaise. D'abord, il se trouve que vraiment le tram à Bordeaux a été un peu une forme, enfin est devenu un peu une forme de symbole de la ville, comme le métro à Paris. Eh bien, le tram l'est devenu, même s'il marche pas toujours. Je te vois sourire, Mélissa.
Oui, je pensais à quelqu'un qui n'apprécierait pas ce que tu es en train de dire en ce moment.
Ah oui, là, je pense à beaucoup de monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même devenu un peu un symbole. Et il est devenu un symbole pour plusieurs raisons. Il se trouve que le Bordeaux a été classé UNESCO. Ça, on le sait, pour la ville de Pierre, il y a tout un secteur. Et il se trouve que des travaux comme un tram, qui normalement utilise les fils et donc l'air, disons, au-dessus de la tête humaine et donc au-dessus des façades, donc il va utiliser les façades pour s'accrocher, et bien ça ne pourrait pas marcher pour construire quelque chose d'une telle ampleur, parce que pour le coup, on mettrait des fils partout, puisqu'on mettrait le tram partout dans Bordeaux, dans une ville aussi patrimoniale et UNESCO comme Bordeaux. Eh bien, il se trouve que c'est comme ça que les rails de Bordeaux, et ça a été la première mondiale, on est venu rajouter non pas des fils au-dessus, mais une forme de ligne qui, elle, permet au tram de venir se recharger et d'avoir de l'électricité. Et ça, ça a été une nouveauté. Et ça a été surtout fait pour les quais et la place de la Bourse. Et il se trouve quand même que les quais, avant, peut-être que vous le savez, c'était tout un port industriel qui était soit des ports, donc soit purement des entrepôts ou soit du parking. Et tout ça a été donc détruit pour être transformé et pour être remis au public. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très intéressant. On est quand même sur plus de très nombreux hectares, plus d'une centaine d'hectares sur 5 km. Et ces quais-là ont été faits par Michel Courajou, qui était un paysagiste qui est décédé aujourd'hui, qui a eu en suivant le Grand Prix d'urbanisme en 2003, donc juste avant qu'il fasse ces quais-là. Et il se trouve que dans ce dessin, il y a le fameux miroir d'eau. Donc là, on en entend tout le temps parler de ce miroir d'eau. Mais le miroir d'eau, qu'est-ce que... Donc, selon vous, vous allez me dire, bon, bah, très bien, le but, c'est de faire un miroir. Ça, on a compris. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est tout simplement qu'il y a une forme d'appropriation de l'espace public. Les enfants, on peut s'y baigner. Nous, en tant que jeunes, on y va aussi. Tout le monde va s'y baigner, donc il y a autre chose derrière. Il n'y a pas qu'une forme simple de façade, de miroir de façade. Alors que Michel Courajou, à la base, n'avait même pas prévu, et normalement, il n'avait pas prévu que l'on vienne et que l'on puisse y marcher dessus pour des questions sanitaires. Et donc, il y a une réelle appropriation d'un espace qui était public, mais purement admiratif, disons. On était censé faire que le regarder, alors qu'aujourd'hui, on vient même s'y baigner. Et ça, c'est quand même une très jolie forme d'appropriation de l'espace public qui, de base, n'était pas prévue pour ça. De même pour, par exemple, les escaliers de Grand Théâtre. On n'avait pas prévu à ce que les gens puissent s'y asseoir. Et aujourd'hui, franchement, vous allez à la place de la Comédie, qui est la place devant le Grand Théâtre, ben, pour vous poser avec votre sandwich, vous allez sur cette esplanade-là. Et donc tout ça, Laurent Gouillou-Beauchamp vient en partie le détailler, mais il vient surtout détailler sa relation avec l'écrit dans sa conception architecturale, mais aussi dans sa transmission de l'architecture à ses élèves au travers de cet entretien, qui parle aussi de la BD, de son lien avec la bande dessinée, entre architecture et bande dessinée.
Je suis donc avec Laurent Gouillou-Beauchamp, qui est architecte des PLG. Il est ancien architecte associé à l'agence Atalante, architecture, et puis ensuite il a créé une agence qui est aujourd'hui l'agence agence d'architecture Laurent Gouillou-Beauchamp en association avec Leïla Bourdier. Et donc vous êtes en parallèle enseignant à l'ENSAP de Bordeaux et vous êtes surtout enseignant de VTP, donc c'est ville, territoire et paysage. Donc c'est un enseignement, on peut dire, complémentaire à l'atelier de projet qui est l'atelier TPCAU. Et donc cet atelier traite plutôt des questions urbaines et paysagères. Donc d'abord, en tant qu'enseignant à l'ENSAP de Bordeaux, ce sera la première partie de cet entretien. Et ensuite après, nous discuterons surtout, et c'est pour ça que je viens vous voir, puisque vous êtes un grand amateur de bande dessinée. Donc d'abord, en tant qu'enseignant à Bordeaux, quelle est selon vous la place de l'écriture et de la lecture de manière générale dans votre enseignement de l'architecture, dans le cadre de la VTP notamment?
Ok, alors j'ai noté que c'était dans votre enseignement, je l'ai pris pour mon enseignement, je ne sais pas si c'est l'enseignement du VTP en général ou pas. En tout cas, on est plusieurs enseignants dans le champ VTP, donc je ne parlerai pas pour les autres champs parce que je ne les connais pas tous, enfin pas suffisamment. On est plusieurs enseignants à attacher une importance à l'écriture et la lecture dans l'enseignement de l'architecture et dans le champ VTP. et notamment sur la BD, on y reviendra tout à l'heure. Donc la lecture, pour commencer par le deuxième point, bon, parce que je pense que ça paraît évident que c'est important que les étudiants se cultivent, aillent chercher non seulement des connaissances, mais même une curiosité, une richesse intellectuelle, si on peut dire, à travers la lecture. Donc c'est pas forcément la lecture d'ouvrages, en tout cas pour ce qui me concerne, quand, dans mes listes biographiques, c'est pas des ouvrages, je propose pas aux étudiants des ouvrages de travaux de recherche ou des ouvrages spécifiques sur l'architecture, sur les connaissances dans l'architecture ou la technique, ou etc. C'est plutôt des livres qui sont en lien, à mon avis, avec tous ces thèmes-là, notamment avec la ville, mais qui sont plus des livres d'ordre littéraire ou poétique, parce que ça me semble important que les étudiants s'ouvrent aussi à cette approche de la littérature, de la lecture, et se cultivent quelque part à travers des textes qui ne sont pas spécifiquement dédiés à l'architecture ou au paysage, à la ville ou à l'urbanisme, mais qui en traitent indirectement et peut-être même involontairement à travers des romans, des livres plus poétiques, comme on le verra tout à l'heure, certains livres le traitent. Sur l'écriture, alors là, c'est un petit peu pareil. Ça me semble, bon, partant du principe déjà qu'un architecte dessine, certes, qu'on soit évidemment, mais dans sa pratique, donc dans ses études, avant d'être architecte, en tant qu'étudiant, on passe énormément de temps à lire et à écrire. Dans les candidatures qu'on peut faire, dans les argumentaires qu'on peut faire pour des concours ou je ne sais quoi, finalement, on passe beaucoup plus de temps à écrire qu'à calculer. Et ça, c'est, je le dis souvent, parce que on sait que quand les jeunes lycéens nous demandent qu'est-ce qui est important pour commencer les études d'architecture, beaucoup pensent, les lycéens, les parents, et les enseignants en lycée ou en collège pensent que la matière principale, c'est la technique, la technologie, les maths, etc., les matières scientifiques. Ben, j'ai tendance à dire que quand on est bon dans les matières scientifiques, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et quand on est bon dans les matières littéraires, et notamment en philo, ben, c'est encore mieux. Parce que finalement, c'est plutôt sur ces champs-là qu'on va avoir à s'exprimer, avec le dessin, bien sûr. Donc l'écriture me paraît très important. Je mettrai à part tout ce qui concerne l'orthographe et la syntaxe, parce que bon, ça c'est un des sujets un peu à part, mais structurer un texte, le rendre synthétique, bah, c'est de toute façon une forme d'expression dont les contraintes et les objectifs sont un peu les mêmes qu'en architecture. Concevoir un texte, c'est effectivement être synthétique, aller à l'essentiel et... On ne peut pas dire les six morts, mais enfin, on peut se poser la question. Synthétique, structuré, un petit peu la même chose que dans l'architecture. Donc, de toute façon, la pratique de l'écriture permet, de se former à cet exercice de synthèse et de structure. Je crois aussi beaucoup à la... Alors, notamment, bon, je suis un homme plutôt sensible, et je crois beaucoup à la force des mots et au fait que un mot dit une chose, mais deux mots disent autre chose, et que les synonymes ou les antonymes permettent d'élargir énormément les horizons. Bon, évidemment, on permet d'élargir le vocabulaire, mais surtout d'élargir les horizons. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot, qui est donc d'une idée finalement, et donc l'idée traduite par un mot, on peut... étendre l'idée, on peut ouvrir les champs des possibles, pour reprendre des expressions assez classiques, élargir les horizons, tout simplement en faisant des recherches de mots, de synonymes, d'antonymes. Et c'est vrai que dans le cadre de mon enseignement et dans les groupes d'étudiants que je suis, je leur remets, surtout en première année, en S1 et S2, je leur remets très souvent, voire systématiquement, trois pages de liste de mots qui sont par thématique, et qui montre comment, à partir d'une idée large, on peut trouver des mots précis, et comment on peut associer plusieurs mots précis, et donc étendre une idée de base. Bon, ça c'est un exemple. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ce qui me semble important dans l'écriture et les lectures.
Voilà. Et donc, c'est un travail sur lequel vous insistez, la recherche d'antonymes, de synonymes,
oui,
par rapport à une première idée de l'étudiant.
Oui, tout à fait. C'est vraiment... Oui, j'en parle. C'est pour ça que je remets à l'étudiant, à chaque étudiant, ses fiches, pour qu'ils aient un document d'appui. Et, bon, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, et notamment les dictionnaires... informatique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais
oui, c'est du...
Internet, ouais. Ouais, sur Internet, il y a des très très bons dictionnaires là, de Unicamp, celui qui est fait à Caen, qui évolue d'ailleurs, et qui permet de voir des nuages de mots. Et puis, ben, on peut aller évidemment très très vite en cliquant sur un mot. On a une flopée de synonymes qui sont par ordre de pertinence. On peut très vite trouver des mots auxquels, ben, évidemment, qu'on connaît, mais auxquels on ne pense pas forcément. Et donc, moi, je trouve ça assez ludique, en fait. Je trouve ça assez ludique, assez amusant. Et finalement, on peut très vite s'étoffer un petit peu l'esprit avec toute une série de mots qui ne viennent pas forcément à l'esprit, mais qui, une fois qu'on les a sous les yeux, permettent tout d'un coup de préciser sa pensée, de l'élargir, d'aller au-delà même de ce qu'on avait comme idée de base et d'étendre encore une fois ses idées.
Vous avez un souvenir d'étudiant qui utilisait l'écrit ?
J'ai des souvenirs d'étudiants, je ne me saurais plus dire lesquels, puis bon, peu importe, ce n'est pas, je pense, ça l'objet de la question. Notamment, parce qu'on a été évidemment tous confrontés à ce Covid, et on s'est retrouvés, les étudiants et les enseignants, à devoir travailler ensemble à distance. Donc, par le biais de l'écran, etc., bon, on peut refaire le topo. Et on s'est dit entre enseignants, qu'est-ce qu'on peut proposer aux étudiants pour qu'ils puissent travailler en plus sans se déplacer. Donc il y a eu un travail sur le site de l'école que les étudiants connaissaient, donc pas besoin d'aller sur le site pour travailler dessus. Ça a été l'occasion des choses qu'on demandait déjà de manière peut-être implicite, si on peut dire, mais là qui ont été vraiment demandées de manière explicite, c'était de faire des retours de lecture. Donc de lire, donc, on rejoint la question de tout à l'heure. D'écrire quelque part pour en... Alors, d'écrire, pas forcément, mais en tout cas, d'en faire des retours. Et on avait dit aux étudiants, justement, soit vous faites un retour de lecture écrit, assez classique, soit même, vous utilisez tous les moyens d'expression que vous voulez, des vidéos, du son, enfin bref, ce que vous voulez. Et il y a eu, effectivement, des retours très, très divers dans la forme. Donc, il y a eu des écrits, mais il y a eu aussi des retours assez amusants de... Donc là, on sort un peu de la question, mais quoique, pas forcément, parce que c'est aussi une forme d'écriture, parce que après tout, l'écriture, c'est pas seulement du texte, hein, on peut aussi écrire, déjà écrire avec le dessin, entre dessin et écriture, on peut se poser la question de savoir où est la limite entre les deux. Mais il y avait eu des étudiants qui s'étaient amusés à faire des échanges de textos sur des lectures, etc. Donc ils avaient mis sous forme de vidéos, enfin bon, bref, toute une série de choses assez amusantes et intéressantes. Comme je disais tout à l'heure, étant un être sensible et un enseignant assez sensible, je dois dire que ça devait être en 2020, en S1. Il y a beaucoup de retours que j'ai eus, donc de textes ou de choses plus variées dans la forme, qui m'ont littéralement ému. J'en avais fait part à mes autres enseignants de VTP, mais j'ai été vraiment touché par l'imagination d'abord, parce que c'est de ces étudiants qui étaient en première année. Est-ce qu'il y avait des S1, S2, je ne sais pas, mais pas des deuxièmes années, encore moins des troisièmes années. Donc c'était bien des premières années qui m'ont vraiment touché, quoi. Donc il y avait vraiment une implication des étudiants sur ces retours de lecture. Donc touché par la qualité, la pertinence et aussi la sincérité des retours de ces lectures. C'était des retours assez synthétiques, hein. C'était évidemment pas une analyse de 50 pages sur un livre ou un texte, mais justement, il y avait une qualité dans la manière de retranscrire un texte, un livre, etc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touché et beaucoup intéressé.
Pour comprendre un peu, c'était des livres théoriques sur l'architecture?
Non, justement, il y avait des listes. Alors moi, est-ce que c'est cette année-là? Non, c'est l'année d'avant cette liste-là. On a poursuivi, en fait, au-delà du Covid... On a poursuivi un peu cette demande parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même assez intéressant. Donc j'ai complété les listes parce qu'on a ouvert aussi le champ des modes d'expression. Okay. Au départ, c'était les livres et moi, j'avais proposé la BD. Et en début d'année, on a étendu ça au film. Moi, j'avais aussi les livres photos, enfin la photo en général. Okay. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on pourrait parler.
Très bien. Donc ça, c'était pour la partie en tant qu'enseignant. Et je vois que dans cette liste, vous l'avez pas, donc d'abord c'était pour particulièrement pour les livres, et après vous l'avez ouvert donc à la BD. Donc la BD, donc c'est considéré comme le 9e art, donc pendant très longtemps c'était un art donc qui était plutôt dédié aux enfants, et peu à peu a été reconnu comme un art à proprement parler, de manière assez récente on peut dire. Donc on peut aussi préciser que la BD, il y a différentes versions. La version américaine est très différente de la version européenne. Donc d'abord, vous, concernant la version européenne, pourriez-vous expliquer pourquoi vous aimez la BD ?
Alors je vais répondre à cette question, et en même temps à ce que tu viens de dire sur la BD considérée comme 9e art. Personnellement, bon, la BD, je la lis depuis que je suis gamin. J'ai lu évidemment les Astérix, les Tintins, les Lucky Luke et tout ce qu'on veut. Je précise que, alors, en particulier, mais sur Astérix aussi d'ailleurs, mais sur Tintin, il y a des super BD. Je prends souvent les Bijoux de la Castafiore. C'est une BD qui est super bien montée. Il y a des manières, bon, je ne sais plus de quand date la BD, hein, des années 50 ou 60, je ne sais plus, peut-être 60. Il y a des manières de représenter le son, les sons en fond sonore. Il y a des tas de choses extrêmement malignes dans cette BD, qui est très très classique, mais un BD belge. Dans Astérix, moi, je me rappelle de mon père qui lisait la BD, qui aimait bien Astérix, et qui me parlait de Astérix chez, non, pas, les Jeux Olympiques, je ne sais plus exactement quel est le titre, où il y a des représentations de la Grèce antique qui étaient d'une fidélité époustouflante, donc il y avait quand même un travail de recherche dans certaines BD hein, d'Astérix qui était assez poussé. Moi je suis pas du tout un spécialiste de cet aspect là, donc peut-être que certains écriraient au scandale en m'entendant parler de ça, mais bon, j'en sais rien. Mon père, je pense, n'était pas un ignare dans ce domaine là et il avait trouvé qu'il y avait certaines images qui étaient quand même très très bien vues. Bon, on va pas s'étendre sur cette partie là, mais simplement ce que je voulais dire, c'est que la BD considérée comme le 9e art, moi ça fait longtemps que je l'entends. Et je n'ai jamais pensé que la BD j'ai toujours pensé que c'était le 9e art et qu'elle avait sa place dans tout mode d'expression artistique. J'ai jamais pensé qu'elle était spécialement pour les enfants au départ, puis pour les adultes après. En fait, pour moi, la BD était là, point barre, et on vivait avec. Il n'y avait pas de débat sur la place de la BD dans l'art en général. Reconnu que récemment comme art à proprement parler, pour moi non. Après, comme on en a sans doute parlé déjà récemment, je suis encore, je peux dire, effaré, voire ahuri, de voir que des jeunes de ta génération peuvent dire eux-mêmes d'ailleurs que la BD est un art mineur, quoi. Et j'ai du mal à comprendre comment on peut en être là. Donc, par des arguments qui sont sans doute qui traînent dans la tête des adultes et des jeunes, comme quoi la BD serait effectivement un art mineur, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et un des arguments, c'est que aussi la BD serait moins bien que la littérature, parce qu'elle montre à la fois, enfin elle raconte une histoire avec une image, donc elle empêcherait au lecteur de se forger son imagination, ce qui est à mon sens totalement faux. Si on prend une BD et qu'on la fait lire à trois personnes verront des choses complètement différentes. Je pense que chaque être a en lui un vécu, et que c'est ce vécu qui lui permet d'apprécier et d'interpréter ce qu'il lit, ce qu'il regarde, ce qu'il voit, quand il va voir un film, qu'il va voir un concert, tout ce qu'on veut, qu'il voit des tableaux. Il a en lui des choses qui lui permettent de voir à sa manière une œuvre qui n'est pas du tout la même que son voisin ou sa voisine. Donc je pense que l'imagination a toujours sa place. Pour moi, il n'y a pas débat. Enfin, il n'y a pas débat pour moi, hein, mais débat il y a quand même. Donc voilà pourquoi j'aime la BD. Je dirais par rapport à tout ce que j'ai dit, je trouve intéressant, moi, que d'abord que ça raconte une histoire. Donc c'est vrai que, alors ça, il y a un truc très piégeux dans la BD, c'est que quand vous allez dans une boutique, même si vous aimez la BD, il y en a une telle quantité que c'est extrêmement difficile de choisir une BD pour soi-même ou pour offrir, parce que finalement, je vais revenir sur une chose. Finalement, ce qu'on peut percevoir le plus vite dans une BD, bon, c'est sa couverture, qui est en général assez chiadée, les gens sont assez malins. Et ensuite, on peut feuilleter et puis voir des dessins qu'on voit rapidement. Il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas, à mon avis, percevoir, c'est la qualité du scénario. Pour apprécier le scénario, il faut lire la BD. C'est vrai que je suis très attaché à la qualité graphique de la BD, mais bon, la qualité graphique, j'aime bien être surpris aussi. On peut aimer des BD de styles complètement différents. On peut aussi ne pas forcément aimer un style, et puis finalement se rendre compte que, bah si. Voilà, donc il y a ce côté graphique, justement, que je trouve intéressant dans la BD, qu'on n'a pas évidemment dans un roman, dans la littérature, par nature. Il y a du texte, bien sûr, mais il y a évidemment un scénario. Et c'est vrai que la BD, pour le coup, aussi est vachement intéressante pour ça, parce que ben, ça répond peut-être à des questions qu'on abordera tout à l'heure. Je pense qu'elle permet d'aborder des sujets peut-être de manière un peu synthétique, donc un peu simpliste peut-être parfois, mais sur des sujets de fond. Mais on peut justement assez rapidement, et de manière un peu, entre guillemets, facile, mais un peu légère, pas légère dans le fond, hein, légère parce qu'on a du dessin, il y a l'association dessin-texte, on peut se plonger dans des sujets qui sont des sujets de fond, et donc des BD qui sont traités sous forme documentaire.
Et donc se plonger dans un sujet de fond, il peut y avoir un sujet très très large qui est celui de l'architecture, et donc le lien entre architecture et bande dessinée, donc on peut dire qu'il est quand même un peu indéniable. Donc par exemple, même entre juin 2010 et janvier 2011, la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris a présenté une exposition qui s'appelait « Archi et BD, la ville dessinée ». Et donc dans l'un de ces catalogues d'exposition, en quatrième de couverture, on peut voir à la fin, je cite, « Les dessins des auteurs de bandes dessinées viennent s'y croiser avec des dessins au sens intention, but, d'architecte. Les images et les rêves se répondent et se confondent parfois. » Donc plutôt que de vous demander pourquoi l'architecture en général doit s'intéresser à la BD selon vous, j'aimerais plutôt savoir si et pourquoi l'enseignement de l'architecture, donc notamment dans les écoles nationales supérieures d'architecture où vous enseignez, si cet enseignement et pourquoi cet enseignement de l'architecture doit s'intéresser au 9e art.
Bon, je vais répondre déjà d'une manière un peu générale qui ne répond pas directement à cette question du 9e art, mais de l'art en général. Dans l'enseignement de l'architecture et dans les ENSA, il me semble évident et important, essentiel, fondamental, tout ce qu'on veut, que les étudiants s'ouvrent à toute forme d'art, je le disais un peu tout à l'heure. Mais de toute façon, d'une manière générale, j'ai failli le dire tout à l'heure, la plus grande qualité, à mon avis, recommande aux jeunes lycéens qui veulent s'inscrire à l'école ou qui me posent la question quelle est la meilleure des qualités à avoir, c'est la curiosité. Donc la curiosité engendre la soif d'aller voir tout ce qui se fait à droite à gauche. Voilà. Donc la BD en fait partie. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur la BD par rapport à l'architecture? D'ailleurs, c'est pas tout à fait la question, mais je pense que les étudiants doivent s'intéresser à la BD au même titre que tous les arts, quoi. Avec la spécificité, c'est que je pense que les étudiants peuvent se saisir assez facilement de la BD parce qu'ils peuvent dessiner, ils peuvent. Je dirais pas qu'ils peuvent faire de la BD, ça j'en sais rien, mais c'est pas le sujet. Mais la BD, ce sont des planches qui sont dessinées, ce sont des cases. Dans certaines BD, la ville est représentée, le paysage est représenté. Donc on pourrait faire tout un enseignement spécifiquement là-dessus. J'aimerais bien le faire d'ailleurs, mais bon, on n'a pas malheureusement pas le temps de le faire. Mais parce que ça permet tout bêtement déjà aux étudiants de voir comment on peut représenter l'architecture, comment on peut représenter le paysage, et ensuite, d'abord, comment on peut raconter aussi une histoire, comment la ville peut être présente, je disais tout à l'heure de manière implicite, non volontaire, mais quelquefois volontaire quand même, dans des histoires, comment elle est présente, comment elle est représentée, comment on raconte une histoire avec ça, quoi. Il y a plein de BD là dont on pourrait parler, il y a une BD très intéressante sur la naissance de l'agriculture, alors c'est pareil, je ne me souviens plus du titre, la naissance de l'agriculture à la préhistoire, donc bah là qui parle aussi de paysage, on peut dire, parce que quand on parle d'agriculture, on parle de paysage, et c'est très très intéressant, enfin voilà. Donc il y a une forme d'évidence en fait dans le fait que l'enseignement de l'architecture doit s'intéresser au 9e art, comme aux autres.
Ouais. Et le fait que la BD soit un peu à l'intermédiaire entre l'univers du graphisme, donc auquel les étudiants ils sont vraiment habitués, les étudiants en architecture, et le monde plus typographique de la narration et du contenu textuel, qu'on retrouve par exemple dans les bulles des BD, est-ce que vous pensez que la bande dessinée, elle peut sembler adaptée pour réintéresser des étudiants qui sont détournés de la lecture, donc de la lecture au sens purement textuel, de la littérature, je veux dire. Et que pensez-vous du rapport qu'ont les étudiants en architecture avec la bande dessinée ?
De la BD, par nature, la bande dessinée, ça veut dire deux choses, hein, déjà. C'est qu'il y a du dessin, mais surtout qu'il y a des bandes ou des planches. Donc il y a un scénario, ben, là on pourrait se rapprocher du cinéma, hein, parce que finalement... D'ailleurs, je ne suis pas du tout un spécialiste du cinéma, mais me semble-t-il, un cinéaste, quand il prépare son film, il fait ce qu'on appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle, des planches,
oui.
Des planches où il représente, me semble-t-il, où il représente, même d'ailleurs, j'ai vu ça aussi, pour des planches de scène, pour le théâtre, etc., où on représente finalement plusieurs scènes, plusieurs étapes d'un scénario finalement. Et la BD ne fait que ça, finalement. Enfin, ne fait que ça. Elle fait beaucoup d'autres choses. Mais elle raconte bien une histoire, donc tout un déroulé par différentes cases qui sont une succession de moments de l'histoire. Et donc, elle représente avec le dessin. On y retrouve, bien sûr, le côté textuel. Alors, quelquefois, de manière... C'est assez intéressant à noter, de manière extrêmement abusive, dans les fameuses BD de Black et Mortimer, où, alors ça c'est très intéressant à regarder, en fait il y a un abus de texte, puisqu'en fait dans cette BD-là, dans ces BD-là, le texte décrit l'image. Et ça c'est très très étonnant, donc dans presque chaque image vous avez un pavé qui décrit l'action même, c'est pas seulement l'image, qui décrit l'action. Donc je n'ai pas d'exemple précis en mémoire, mais c'est assez étonnant. Donc je me souviens toujours de ces BD où le texte est en trop, quoi. Il y a beaucoup trop de texte, et je pense qu'il y a un bon équilibre à trouver entre le texte et l'image. On pourrait parler des onomatopées dans la BD, enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a des spécialistes pour en parler. On peut aussi parler de l'absence de texte aussi, c'est-à-dire qu'il y a des BD, des planches, alors des BD sans texte, je ne sais pas, il ne doit rien avoir, mais des planches où on n'a aucun texte. Et je voudrais revenir sur quelque chose que je t'ai raconté, une des BD que j'aime beaucoup, mais pour des tas de raisons, c'est évidemment pas la seule, c'est le... Alors, je ne sais jamais si c'est La mine de l'Allemand perdu ou Le spectre au bal d'or de Blueberry, et où il y a des planches où on entend, c'est pas seulement qu'on entend le son, mais c'est qu'on entend le silence. Et en lisant la BD, on entend le silence. Donc ça veut dire que l'univers sonore il peut être traduit dans la BD, non seulement quand il y a du son, beaucoup de son ou un peu de son, mais même quand il n'y en a pas du tout et qu'on recherche le silence. Donc pour ceux qui veulent s'y intéresser, ils diront regarder à quel moment on entend le silence dans la BD dans une de ces deux BD de Blueberry. Donc je pense que l'absence de texte, le trop de texte ou le bon équilibre entre texte et image qualifie la BD. Et donc c'est extrêmement important, intéressant de s'y pencher. Alors l'autre question, c'était de savoir si la BD peut réintéresser les étudiants à la lecture. Ben, moi je pense que oui. Et c'est pour ça que je suis étonné. Alors ça répond à la deuxième question, la troisième, le rapport qu'ont les étudiants en architecture avec la bande dessinée. Notamment les étudiants en architecture. Je l'ai dit tout à l'heure, toujours très ahuri de leur réticence, pas seulement de leur méconnaissance, mais de leur réticence,
d'accord.
Puisque c'est eux qui me l'ont dit, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent, leur réticence à lire la BD. Je ne le comprends pas. Donc déjà, il faut les intéresser à la BD. Je pense qu'après, une fois intéressés à la BD, je pense que ça peut peut-être les réinciter à se retourner vers la lecture, donc vers le roman, etc. Mais déjà, il faut qu'ils s'intéressent à la BD. Et c'est pourtant quand même pas compliqué. C'est ça que j'ai un peu de mal à comprendre.
Et la BD en particulier, c'est pour ça que vous avez participé en partie à la création d'une forme de comité de lecture au sein de l'ENSAP Bordeaux.
Ouais, alors, c'est face à ce constat assez, pas dire navrant, ça serait un peu dur, mais assez déroutant de la méconnaissance ou de la réticence des étudiants à se plonger dans la BD. Mais comme il y en avait quand même certains que ça intéressait, j'avais proposé à Blandine Dubois de lancer un appel aux amoureux de la BD à travers, par mail, ce qu'elle avait fait, et on avait eu quelques retours. Pas beaucoup, mais bon, ça, c'est pas grave. Et entre 10 et 15. J'avais espéré, personnellement, que les étudiants se saisiraient de ce groupe qui s'était formé pour proposer des choses. Il y a eu des envies. Je leur ai dit, si vous avez des envies, faites. Mais moi, mon intention n'était pas d'être animateur de ce groupe. Mon intention était d'être l'initiateur et ensuite que les étudiants se l'approprient et puis ensuite fassent des propositions. Si cette émission était l'occasion pour les étudiants de Bordeaux, notamment, de relancer ce comité de lecture. Oui, c'est un appel, oui. Mais faites-le, comptez pas sur moi. Moi, je suis pas là pour très longtemps. J'ai trop de choses à faire. Et c'est pas intéressant que ça soit moi qui mène ça. C'est des étudiants qui doivent le mener.
Et j'évoquais la médiathèque de l'école d'architecture. Parce que le principal rôle de la médiathèque, c'est quand même un peu un devoir de médiation. Donc c'est-à-dire de sensibiliser les étudiants à travers la lecture et l'audiovisuel. Ils ont aussi une partie audiovisuelle à l'architecture. Et est-ce que selon vous, vous voyez la BD comme un moyen un peu de rendre plus accessible l'architecture ? Non seulement aux étudiants, donc d'où les questions sur l'enseignement de l'architecture, puisque l'objectif de l'enseignement de l'architecture, c'est de transmettre de nombreuses connaissances, mais aussi à ce que les étudiants aiguisent un peu leur attrait pour l'architecture. Et autrement dit, est-ce que vous pensez que la BD, ça peut être un peu un moyen de médiation architecturale ?
La BD, on peut, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut parler de l'architecture, on peut parler de l'architecte, du métier de l'architecte, et on peut parler de paysage à travers la BD, de manière documentaire ou bien de manière à travers une histoire. Donc c'est un bon moyen de médiation.
Si vous avez un ouvrage écrit, donc que ce soit un livre, un article, même peut-être une thèse à la rigueur, un recueil de poèmes, n'importe, mais dans tous les cas écrit, à conseiller, que serait-il ?
Alors, si c'est un ouvrage, je renvoie sur Les villes invisibles, je ne peux pas ne pas le nommer. Italo Calvino, c'est, je l'ai dit, mon livre fétiche. C'est pas, il y a plein de milliers d'autres qui valent au moins celui-là, mais celui-là, je le trouvais beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense aussi à la première lecture. C'est un livre extrêmement facile à lire, à mon avis, qui est traduit dans beaucoup de langues, y compris en chinois, et qui est un livre poétique, mais en fait qui parle de beaucoup de sujets de manière implicite, et c'est un livre qu'on peut lire 10 fois, on y redécouvre des choses à chaque fois. Donc c'est un livre qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît à la première lecture. Donc si je dois en citer qu'un, c'est celui-là. Pour la BD, c'est plus compliqué. Je vais peut-être, comme j'ai cité quelques titres, je vais peut-être en citer un dont on avait parlé, c'est Peter Pan de Loisel, que j'ai mis des années avant de lire. Et puis un jour où j'étais en vacances et que j'étais chez quelqu'un qui avait plein de BD, je suis tombé sur ce Loisel, le Peter Pan, et je l'ai lu d'une traite, il y a je ne sais pas combien de volumes, 5 volumes je crois, et je me suis dit, mais bon Dieu, pourquoi est-ce que je n'ai pas lu ce livre avant ? Bon, on pourrait dire ça pour tout. Donc, BD très classique dans le dessin, mais qui est une BD assez dure, c'est peut-être pas vraiment le mot, mais assez forte, et qui une aventure extraordinaire, quoi, une histoire extraordinaire. Donc, celle-là, allez, puisqu'il faut en citer une, mais il y en aurait plein d'autres. Oui.
Voilà. Très bien. Eh bien, merci bien pour cet entretien. Je pense qu'on a fait le tour et qu'on a de bons conseils lecture.
Les villes invisibles, Italo Calvino, 4e de couverture. Les villes, comme les rêves, sont construites de désirs et de peurs, même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes, leurs perspectives trompeuses, et que chaque chose en cache une autre. Moi, je n'ai ni désir, ni peur, déclara Le Can, et mes rêves sont composés soit par mon esprit, soit par le hasard. Les villes, aussi, se croient l'œuvre et l'esprit, ou du hasard. Mais ni l'un ni l'autre ne suffisent pour faire tenir debout leurs murs. À travers un dialogue imaginaire entre Marco Polo et l'empereur Kublai Khan, Italo Calvino nous offre un dernier poème d'amour aux villes, et une subtile réflexion sur le langage, l'utopie et notre monde moderne.
Campus Bordeaux. 88.1.